Méditation numéro 63. La Sainte Bible est-elle négative? Bon, de tout temps, il y a eu des hommes pour mal utiliser la Sainte Bible. C'est comme l'électricité. On peut s'en servir pour ranimer un cardiaque, puis le ramener à la vie. Ou on peut très facilement s'en servir pour tuer, si on veut. Bon, en fait, avec la même Bible, on peut donner la vie ou on peut donner la mort. Ça dépend de qui s'en sert. La vérité, c'est que la Sainte Bible n'est ni meilleure ni pire que l'homme qui l'utilise. C'est pas de la Sainte Bible qu'il faut se méfier, mais de la personne qui l'utilise. Jésus-Christ, qui était si bon, et les pharisiens méchants qui l'ont fait crucifier, lisaient exactement les mêmes Écritures saintes. Est-ce qu'on réalise ça? Jésus a dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » La Sainte Bible, quand elle est bien utilisée, c'est l'outil le plus utile, le plus efficace pour éclairer, consoler et guérir les âmes des hommes. Alors, si vous avez un cœur honnête envers Dieu, faites-en la lecture sans crainte. La lecture de la parole de Dieu va devenir le pain quotidien de votre âme. La Sainte Bible est un héritage que Dieu a légué aux hommes, un authentique don du ciel. Lisez les Saintes Écritures quotidiennement, et vous allez voir que votre vie spirituelle va s'enrichir rapidement. Dans le psaume 119, versets 1 à 18, le roi David a prié ainsi. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Méditation numéro 64. Qu'est-ce que le péché? Pourquoi Dieu aime pas le péché? Mais premièrement, parce que le péché est contraire à sa bonne nature. Deuxièmement, parce que Dieu sait bien qu'il est mauvais pour l'homme de pécher. C'est justement parce que Dieu nous aime puis que le péché est mauvais pour nous autres que le péché est une blessure à son cœur puis un attristement pour ses yeux. Par exemple, admettons qu'il y a un de nos enfants qui aurait essayé qu'on aurait essayé d'élever de notre mieux là, pendant 15 ans, disons environ, puis qui commencerait à prendre de la drogue, à sortir avec des voleurs, puis qui commencerait à faire des coups avec eux autres. Comment on se sentirait nous autres en tant que parents? Eh bien, Dieu se sent exactement pareil quand il nous voit vivre dans le péché, n'ayant aucune retenue. Hein. Nous autres, on avertit nos enfants de ne pas prendre de drogue, puis Dieu avertit les hommes de ne pas pécher, exactement pour les mêmes raisons, parce qu'il nous aime. Dieu veut tellement ce qu'il y a de mieux pour nous autres. Quand Dieu est là à nous regarder nous détruire, ou à détruire la vie des autres juste pour nous donner du plaisir, pensez pas que Dieu est insensible à ça. La Bible dit, « Celui qui a créé les yeux ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? » Puis on peut aussi ajouter, « Celui qui a créé les sentiments ne serait-il pas blessé? » Oui, Dieu est sensible. La preuve, c'est qu'il a créé la fleur. Alors, pensons pas que Dieu ne ressent rien quand il voit quelque chose de mauvais nous arriver. Les péchés des hommes attristent le cœur de Dieu parce que c'est pas pour ça que Dieu a créé l'homme. Ce qui fait plaisir à Dieu plus que tout au monde, c'est de voir des hommes et des femmes regretter sincèrement et tourner le dos à leur ancien péché puis leur ancienne façon de vivre qui était mauvaise. Il n'y a rien qui réjouit plus Dieu que de voir une personne prendre l'engagement d'écouter et de suivre son Fils, Jésus-Christ, au mieux de ses capacités. En Luc, chapitre 15, versets 1 à 7, Jésus a dit, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Méditation numéro 65, la violence verbale. Dieu déteste la violence autant celle qui est verbale que physique. La violence verbale, c'est toujours de la violence quand même aux yeux de Dieu. La Sainte Bible est très claire là-dessus. Les outrageux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des hommes puis des femmes qui se plaisent vraiment à utiliser leur langue pour blesser puis humilier les gens plus faibles qu'eux autres, ou leurs conjoints, ou leurs enfants. Il y a des parents qui détruisent littéralement leurs enfants à force de les dévaloriser. Il y a des pasteurs qui savent qu'ils ont le gros bout sur leurs employés. Des pasteurs qui savent qu'ils ont le gros bout sur les chrétiens, puis il y a des patrons qui savent qu'ils ont le gros bout sur ceux qui travaillent pour eux autres, puis qui les traitent comme des vrais chiens. Il y en a qui regardent ça comme une qualité de pouvoir dominer les autres. Il y a même des livres qui enseignent comment faire ça aujourd'hui. Une personne de nos jours qui n'est pas capable de vider son sac, de dire sa façon de penser, d'insulter puis d'envoyer promener les autres, est considérée comme un faible, un misérable, puis comme quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui est quasiment infirme. Dans quel monde on vit? Mais les gens doux sont au contraire bien aimés de Dieu. La douceur est une rare et grande qualité qui n'est pas appréciée dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de précieux. La douceur de caractère révèle souvent un cœur bon. Blesser, humilier, écraser, dominer, puis menacer les autres, il n'y a pas de péché là-dedans pour le monde. Mais la Sainte Bible dit que celui ou celle qui pratique la violence verbale, sans regret, commet un péché suffisamment grave pour être damné au jour du jugement. Je répète la parole de l'apôtre Paul, les outrageux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous réalisez que vous vous êtes rendu coupable de ce péché-là, je vous encourage à écouter la voix de Dieu dans votre cœur pendant que je parle, puis à abandonner ce péché-là, à y renoncer. Acceptez que Jésus-Christ fasse un ministère dans toute votre vie. Les croyants sont pas rares à trouver. Il y en a des centaines de millions dans le monde, sur la terre. Ce qui est plus rare, c'est un chrétien. Le vrai chrétien ne fait pas seulement croire en Jésus-Christ, mais il le laisse entrer dans son propre cœur, dans sa propre vie, et changer sa façon de vivre. L'apôtre Pierre a écrit, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction vous-même. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. » Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Méditation numéro 66. Le péché et la colère de Dieu. Tout péché est un venin qui empoisonne le monde dans lequel on vit. Le péché empoisonne premièrement notre propre vie, simplement à cause de ses conséquences naturelles. Ensuite, le péché empoisonne toujours la vie de ceux qui nous entourent d'une façon ou d'une autre. Les péchés qui font pas de tort aux autres, là, mes amis, là, ça n'existe pas. S'il y avait un péché qui nous faisait absolument pas de tort à nous-mêmes ou à d'autres, Dieu ne l'aurait pas déclaré péché. C'est aussi simple que ça. Dieu, dans la Sainte Bible, n'a déclaré péché uniquement ce qui était mauvais pour l'homme ou pour son prochain. Maintenant, c'est quoi les péchés susceptibles d'attirer la colère de Dieu? Les péchés que l'homme commet par faiblesse, Dieu est parfaitement capable de comprendre ça puis de les pardonner. Ce sont les péchés que les hommes pratiquent, comme si c'était un sport, qui irritent Dieu. Les péchés commis volontairement, en se moquant des conséquences de la vie sur les autres. Cette sorte de péché-là irrite les yeux de Dieu comme la fumée irrite nos yeux à nous autres. Quand le Dieu saint voit des hommes pécher juste pour le plaisir de la chose, quand il les voit s'avilir eux-mêmes et avilir les autres, ça l'indigne et le met en colère. Beaucoup d'êtres humains pêchent volontairement, de façon préméditée, pour le pur plaisir de faire le mal, puis ils regrettent jamais rien. C'est seulement pour cette sorte de pécheurs-là que Dieu nourrit de l'irritation, de la colère et même la promesse de châtiment. L'apôtre Paul a écrit, « Penses-tu, ô homme, qui fait de telles choses, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Oui, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Mais Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, a fait un appel formidable au pire des pécheurs. Il a dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. » Méditation 67. Ma mère m'a dit que dans son temps, ils entendaient parler rien que de l'enfer à tous les dimanches. Bon, les gens étaient conduits à servir Dieu par la peur, ce qui n'est pas la volonté de Dieu du tout, dans le fond. On leur présentait un Dieu sans amour, un Dieu sévère, menaçant, puis même méchant avec le monde. Puis ça, je répète, que ce n'est pas du tout l'image que Jésus-Christ nous a donné de Dieu dans les évangiles. Quand Jésus est arrivé, il s'est mis à aller vers les publicains puis les gens de mauvaise vie, comme on les appelait, puis il leur annonçait que Dieu les aimait eux autres aussi, puis qu'ils voulaient bien croire. S'ils voulaient bien croire en l'amour de Dieu, puis renoncer à leur ancienne façon de vivre, Dieu était prêt à leur accorder un pardon total, puis leur accorder un nouveau départ et une nouvelle vie. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que même le plus pécheur des hommes ou des femmes, la plus pécheresse, peut obtenir le pardon en retour de sa foi en l'amour divin, puis en la personne de Jésus-Christ. C'est simple le salut, c'est une question d'amour. Alors, sous la nouvelle alliance, Dieu regarde pas tellement le péché comme une offense envers la justice divine, mais plus comme une maladie spirituelle dont il veut guérir les hommes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul a dit que l'Évangile était la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les gens religieux et légalistes sont absolument pas capables de comprendre ce langage-là. Beaucoup d'hommes d'Église, surtout chez les protestants, pensent être fidèles à Dieu en condamnant le pécheur, alors qu'en réalité, ils sont totalement infidèles à l'esprit de la bonne nouvelle. Alors si au fond de vous, vous n'aimez pas la vie que vous faites, si vous avez de l'amertume dans le cœur, en vous levant le matin, si vous êtes fatigué de tout ça, attendez plus. Attendez pas de devenir meilleur avant d'aller à Dieu. Le meilleur temps pour aller à Dieu, c'est d'y aller dans notre pire. Dans la Sainte Bible, Dieu a dit quelque part qu'il prenait plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, a dit Jésus. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voilà l'Évangile. Méditation numéro 68, le péché et la grâce de Dieu. Certains péchés sont faciles à abandonner, mais certains autres sont plus difficiles à cause de l'habitude prise avec le temps. Pouvoir confesser nos péchés puis les abandonner d'un seul coup, c'est évidemment l'idéal, mais pour beaucoup d'entre nous autres, les choses sont pas aussi simples. En tout cas, ça ne l'a pas été pour moi. Une multitude de personnes qui ont commencé à lire les évangiles pour eux-mêmes puis à suivre le Seigneur sérieusement se sont découragées puis sont retournées dans leur ancienne façon de vivre, leur ancien train de vie, leurs anciens amis. Mais c'était pas nécessaire de faire ça, de retourner en arrière, c'était pas nécessaire. Dieu comprend nos difficultés. Dieu est saint, mais il ne rejette personne. Peu importe le degré de nos difficultés à nous conformer à l'image de Jésus-Christ, soyez assurés que Dieu ne cesse pas de vous aimer profondément. Dieu est amour, et l'amour excuse tout, dit l'apôtre Paul. Quand Dieu regarde le plus petit des chrétiens, il voit Jésus-Christ en lui. C'est pour ça qu'en 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul a encore écrit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors fermez les yeux, levez une main vers le ciel, puis remerciez simplement le Seigneur de vous avoir revêtu de Jésus-Christ et de ses mérites. Méditation numéro 69, le jugement de Dieu. Quand on voit dans les évangiles que Dieu condamne certaines personnes, ou que Jésus-Christ était sévère envers certaines personnes, on serait peut-être amené à penser que Dieu est un peu sévère, est trop sévère. Mais est-ce qu'un voleur, par exemple, mérite vraiment d'être exclu du royaume de Dieu pour l'éternité? Bon, écoutez-moi bien. Moi, je suis persuadé qu'une des raisons pourquoi Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour prouver qui on est, qui on veut être. Par les pensées qu'on entretient, par les actions qu'on pose, puis surtout par notre façon de vivre en général, par nos paroles, on témoigne à tous les jours de quelle sorte de personne on est vraiment à l'intérieur. Le péché, ça, c'est rien qu'un fruit de l'arbre. L'homme est généralement bien plus mauvais que les péchés qu'il commet. Dieu sait de quoi on serait capable si on serait mis dans un environnement où le mal qu'on pourrait commettre n'avait aucune conséquence au point de vue de la santé, de la loi ou de la qualité de notre propre vie. Si la police n'existait pas, par exemple, ou s'il n'y avait aucun recours en justice, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait si on vivait dans un monde sans aucun code pénal? Les gens continueraient-tu à être du bon monde, comme on dit? Moi, je pense que beaucoup de notre bon monde révéleraient très vite leur vraie nature. Moi, je dis que si la loi donnait seulement le droit de tuer à tout le monde, je pense qu'on verrait des cadavres la bouche ouverte partout sur les trottoirs, ça ne prendrait pas deux jours. Il y a un psychologue aux États-Unis qui a écrit un livre qui prouve que le niveau moral de l'homme est beaucoup plus bas qu'il en a l'air. Une fois qu'il était à la télévision devant un auditoire, il posait la question suivante aux gens. Si vous auriez le pouvoir de faire mourir quelqu'un avec une seule pensée, le faire mourir d'une mort naturelle, même, avec ou sans douleur, de sorte qu'il n'y a personne au monde qui pourrait jamais se douter que c'est vous qui avez jamais fait ça, est-ce que vous tueriez quelqu'un? Les gens ont réfléchi pendant un moment, puis tous ceux qui ont levé la main pour répondre ont dit oui. Il y a même une dame, quand on lui a demandé qui elle tuerait, elle a répondu que ce serait quelqu'un de son église. Bon. Ça, mes amis, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de meurtriers potentiels en liberté qu'il y en a dans toutes les prisons du monde. Tout ça prouve que l'homme est beaucoup plus mauvais à l'intérieur qu'il en a l'air à l'extérieur. Puis Dieu n'est pas vraiment sévère quand il condamne un certain pécheur à être exclu du royaume de Dieu. Dieu voit seulement plus clair que nous autres, c'est tout. Les péchés qu'un homme commet constituent juste la pointe de l'iceberg en réalité. Dieu, lui, y voit jusqu'au fond du cœur. Puis croyez-moi, ça doit pas être tellement beau des jours. Il y a donc une seule façon de se mettre en règle avec Dieu, de devenir une personne agréable à Dieu, de devenir un bon croyant, puis c'est de devenir une personne nouvelle intérieurement. L'homme doit d'abord renoncer aux péchés qui lui sont propres, les repousser. On en a toujours des préférés, là. Puis prendre la décision de ne plus les pratiquer. L'homme repentant est le seul qui est agréable à Dieu. L'homme repentant a ensuite l'immense privilège d'accepter Jésus-Christ personnellement comme son sauveur, son seigneur, son maître, son conducteur, puis de recevoir son esprit en lui qui va lui donner le pouvoir de vivre une vie bien au-dessus du péché. J'espère que vous allez bien vouloir faire ces pas-là. Et ne pas croire qu'on a tout reçu à notre baptême, ce serait une grave erreur. On a peut-être tout reçu positionnellement en Christ, mais on n'a pas tout reçu dans l'expérience de tous les jours. En l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Méditation numéro 70, l'abandon de la foi. Celui qui abandonne la foi se croit généralement plus sage que tous les autres croyants qui demeurent fidèles. Il éprouve inconsciemment une perte d'honnêteté, puis il surestime son jugement. Le refroidissement spirituel s'en revêt souvent une forme de fausse sagesse qui tend à justifier le relâchement moral. Il arrive un moment où on doit apprendre à aimer les corrections du Seigneur, où on va être simplement détruit par l'amertume de notre propre rébellion. Si vous avez eu dans le passé une réaction rebelle, il est bien important d'adopter un esprit plus enseignable à l'avenir, puis d'apprendre à dire humblement « Amen » à la vérité lorsqu'on l'entend. Soyez plus rebelle. Je sens que Jésus-Christ est en ce moment même derrière vous. Il met sa main sur votre épaule, puis il plaide avec vous. L'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-moi vous lire un passage. Ça se trouve dans le prophète Isaïe, chapitre 57. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec moi. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. Méditation numéro 71. En Marc 1, 15, chapitre 1, verset 15, Jésus a dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il y a vraiment une grave erreur dans laquelle beaucoup de gens glissent à propos du christianisme. Beaucoup pensent que pour être chrétien, il suffit de croire en Jésus. Quoi, c'est pas ça, être chrétien, croire en Jésus, allez-vous me dire? Non, c'est pas ça. Ça fait partie de ça, mais c'est pas juste ça. Une personne qui fait juste croire en Jésus, je ne peux pas dire être chrétienne. Moi, quand j'ai retrouvé la foi, j'étais emballé, puis je parlais de Dieu à tout le monde autour de moi. J'ai parlé avec des gens qui se disaient chrétiens, mais qui se permettaient de faire des choses absolument pas chrétiennes, contraires au christianisme. J'avais 19 ans, puis moi, j'étais tout... Je venais de retrouver la foi que j'avais perdue depuis si longtemps. Puis quand je leur disais qu'ils devaient croire en Jésus pour avoir l'âme sauvée, ils me riaient dans la figure, ce que certains d'entre eux autres. Puis ils me disaient tout de suite, « Ah, ben moi, je croyais en Jésus. » Bon, il y a au moins 9 personnes sur 10 qui disent croire en Jésus de nos jours. Réalisez-vous ça. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 23 à 25, il est dit, écoutez-moi bien, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc ces gens-là croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux autres, par exemple. Puis il faisait bien, parce que, je ne sais pas si vous réalisez bien ça, mais ce n'est pas des gens sans foi qui ont crucifié notre Seigneur, mais ce sont des gens qui croyaient en lui. Jésus a été crucifié par des gens qui croyaient en lui. C'est venu comme un choc quand j'ai réalisé ça en lisant l'Évangile. Ça dit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. On va lire quelques versets à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, alors vous voulez me tuer moi aussi. Alors croire en Jésus, ça ne suffit pas pour changer un homme en chrétien. Ça ne suffit pas. Le diable lui-même croit en Dieu. Le diable lui-même croit en Jésus-Christ. Puis il est loin d'être chrétien, vous savez. Les démons croient que Jésus est le sauveur, mais ça ne les arrange pas avec Dieu pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils aiment le mal qu'ils commettent. C'est vrai qu'on devient chrétien par la foi, mais jamais sans produire les œuvres dignes de la repentance, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle faire pénitence. Jésus prêchait clairement, au tout début de son ministère, les paroles suivantes. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Directement ou indirectement, la repentance, c'est-à-dire l'appel à changer de façon de vivre, faisait toujours partie du message de Jésus-Christ. Tous les prophètes de la Sainte Bible, sans exception, ont toujours annoncé la repentance et la pénitence comme moyen de retrouver la faveur divine. Puis il n'y a rien de changé à ça aujourd'hui. Allons pas croire que Jésus-Christ est arrivé avec un plan de salut différent de l'Ancien Testament, parce que c'est faux. Il est venu avec un plan de salut plus grand, un salut amélioré, un salut plus large et plus efficace. Mais la base du salut de l'homme est, a toujours été et sera toujours la repentance et la foi. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ n'est pas un moyen d'être sauvé facilement sans repentance, sans regret. Ce serait une lourde erreur de croire ça. Jésus-Christ a prêché lui-même la repentance, puis les apôtres aussi après lui. On voit ça partout dans le Nouveau Testament. La foi et la repentance vont ensemble. On croit, donc on se repent. On regrette, donc on fait pénitence. La vraie foi inclut toujours la repentance. Une foi qui n'est pas accompagnée de repentance n'est pas la vraie foi chrétienne, mais seulement une imitation. En entendant la parole de l'Évangile, tout homme devrait croire et se repentir, ou se repentir et croire, peu importe l'ordre, pourvu que les deux soient ensemble. Se repentir, ça veut dire reconnaître les péchés qui sont dans nos vies, en éprouver un regret sincère. Et la pénitence suit la repentance en ce qu'elle s'engage à fournir des efforts honnêtes pour racheter ses fautes par de bonnes actions contraires. Ça veut dire se repentir, faire pénitence, ça veut dire avouer nos fautes à Dieu en les confessant, et qu'on prend la décision de les rejeter, puis de faire des efforts honnêtes pour cesser de les commettre dans le futur. Puis à chaque fois que Dieu va lui montrer un nouveau péché dans sa vie à ce chrétien-là, alors ce chrétien va resuivre la même démarche. Alors, si on vous a enseigné que seulement croire en Jésus était suffisant pour être un chrétien, on ne vous a pas présenté l'Évangile fidèlement. Ce pauvre Évangile-là, défiguré, beaucoup de protestants le prêchent. On vous a présenté un Évangile de tiède, qui va amener des millions de personnes, on sait où. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 5 et 6, il dit, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide idolâtres n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'apôtre Paul a dit ailleurs, « Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Paul écrivait aux chrétiens de l'Église de Rome, qui étaient réputés pour leur foi, pour leur profonde piété. Il leur dit, je répète, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions mauvaises du corps, vous vivrez. » Alors, on doit prendre une décision parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Est-ce qu'on aime le péché ou est-ce qu'on aime Jésus-Christ? L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 6, dit que l'affection de la chair, c'est la mort spirituelle, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Méditation numéro 72, la conviction du Saint-Esprit. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Ce texte-là se trouve en l'Évangile de Luc, chapitre 5. Autrement dit, au tout début du ministère de Jésus. Ce texte-là est important parce qu'il nous donne le premier exemple de conversion de tout le Nouveau Testament. C'est la conversion de Simon-Pierre. Pourtant, Pierre était pas un mauvais homme. C'est un homme qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Pierre avait été un homme qui s'était vraiment efforcé, plus ou moins, de vivre de façon à plaire à Dieu dans sa vie, avant. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, quand il priait, il a dit au Seigneur, « Seigneur, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. » On voit qu'il s'était toujours efforcé de vivre ce qu'enseignait l'Ancien Testament au mieux de ses capacités, même avant de connaître Jésus-Christ, à propos des commandements qui interdisaient de manger de certains animaux. Bon, on n'est pas tous méchants, c'est vrai, mais on est tous mauvais, par exemple, soyons honnêtes. On a tous besoin d'être sanctifiés par Dieu pour lui être agréable, à un endroit ou à un autre de notre vie. Il y a du travail à faire. Nous autres, est-ce qu'on s'est déjà jeté devant Jésus comme ça, en réalisant qu'on était mauvais et pécheurs? Si ce n'est pas le cas, ben, il est urgent de prier, de demander à Dieu de nous révéler notre véritable état, comme Pierre. Parce que tant qu'on va avoir une bonne opinion de nous-mêmes, on ne pourra pas connaître toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous en Jésus-Christ. Si Simon-Pierre lui-même s'est reconnu pécheur au point de se jeter devant Jésus-Christ, lui qui était déjà un bon homme, à plus forte raison, on doit le faire nous autres aussi. Jésus-Christ s'approche toujours de celui qui reconnaît ses péchés humblement, qui se reconnaît pécheur, mais il s'éloigne toujours de ceux qui se croient bons. L'apôtre Paul a dit dans son Épître aux Romains, chapitre 3, « Non, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » On a tous péché à notre façon. Mais Jésus-Christ peut nous laver gratuitement. Il suffit de le vouloir puis de le demander. Suivons l'exemple de Pierre. Le jour où il s'est reconnu indigne d'être le disciple de Jésus-Christ, c'est précisément ce jour-là qu'il en est devenu un. Méditation numéro 73, le sang de Jésus. Renonçons à nos péchés, puis fuyons ceux qui nous induisent dans le mal. Vivons pieusement durant notre passage sur la terre. L'imitation de Jésus-Christ procure la vraie joie de vivre, celle qui est intérieure. Notre monde nous tente par des choses temporaires, mais Dieu veut nous satisfaire de biens spirituels et éternels. Alors venons à Jésus-Christ, venons comme on est, avec tous nos défauts, tous nos problèmes, puis tous nos péchés. Pire qu'on est, plus Jésus-Christ nous veut. Si on est déjà des saints, on n'aurait pas besoin de venir à Jésus-Christ, pas vrai? Faisons de notre mieux pour mettre l'enseignement du Christ en pratique, puis cassons-nous pas la tête avec le reste. Tout va venir avec son temps. Dieu ne nous demande pas d'être parfait en commençant. Il ne nous demande même pas d'être parfait après 20 ans. de vie chrétienne, ni après 30 ans, ni après 50 ans. Il nous demande simplement de faire des efforts honnêtes. Alarmez-vous pas si ça boite. Faites comme moi. Avancez par la foi, puis ayez confiance. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, peu importe les péchés ou les mauvaises habitudes qui sont encore dans votre vie, ne cessez jamais de croire en l'amour de Dieu pour vous. Laissez sans cesse le sang de Jésus-Christ purifier votre conscience de vos fautes passées. Dans la première épître de Jean, il est dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ ne nous lave pas rien qu'une fois, mais il nous lave, il nous relave, puis nous relave encore à tous les jours qu'on le demande, sincèrement, à tous les jours qu'on en a besoin. C'est là pour ça. C'est comme avoir hérité d'une fortune d'un parent riche, puis qu'on a maintenant beaucoup d'argent en banque. L'argent est là maintenant, c'est à nous autres, puis on peut aller faire des retraits à chaque fois qu'on en a besoin. C'est pareil avec le pardon de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ. Jésus prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Une alliance, c'est comme un mariage. Quand on se marie, on n'est pas seulement marié le jour de nos noces, mais tous les jours de notre vie. C'est pareil pour le sang de l'alliance qu'on a contracté avec Jésus-Christ. On y participe tous les jours de notre vie. À nous d'en profiter. Il y a aussi dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit ceci. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Comme je l'ai dit tantôt, on voit ici que le sang de Jésus-Christ nous lave pas seulement pour un jour, mais pour toujours. Presque jusque dans l'éternité. Notre rédemption n'est pas une rédemption d'un jour, mais une rédemption éternelle, qui a seulement commencé le jour de notre conversion réelle, mais qui se poursuit à tous les jours jusque dans l'éternité. J'aimerais qu'on ne soit pas choqué quand je parle d'une expérience réelle ou d'une conversion, parce qu'il faut ne pas se leurrer, beaucoup, beaucoup, beaucoup de catholiques, moi le premier, depuis mon baptême, j'ai vécu comme j'ai voulu, j'ai fait toutes les expériences que j'ai voulu, j'ai fait tout ce que j'ai voulu quand j'ai voulu, je me suis vraiment éloigné de Dieu, au point même que j'ai eu besoin d'une reconversion pour être appelé vraiment chrétien d'une façon digne. Alors quand je dis que nous avons besoin de conversion, je veux dire qu'on a besoin de redevenir chrétien à un moment donné. C'est vrai ça. Chrétien un jour, chrétien toujours, c'est pas vrai. Il faut conserver la flamme de notre premier amour pour conserver notre salut éternellement. Méditation 74, l'honnêteté qui sauve. Saisir notre conscience et lui arracher la langue ne changera rien à notre état moral réel. L'honnêteté de cœur est le commencement de la vraie paix avec Dieu. J'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient sombrées dans l'alcoolisme, la drogue, le crime ou la prostitution, puis qui sont devenus croyants et qui ont changé de vie par la suite. En lisant le récit de leur vie, en voyant dans quelle sorte de milieu misérable ils avaient été élevés, quelle sorte d'enfance malsaine ils avaient eue, puis de tous les traumatismes qui en sont naturellement résultés, je me suis dit, boy, c'est pas surprenant qu'ils en soient arrivés jusque-là. J'aurais pas fait mieux qu'eux autres. Je vais aller plus loin. Il était même impossible qu'ils n'en arrivent pas là. Il y en a qui ont eu des vies tellement défaites, tellement horribles, que c'est presque normal qu'ils soient devenus alcooliques. Ceux qui disent, « Ah, aucun degré de tentation ne justifie aucun degré de péché. » Les protestants comme ça, beaucoup de protestants sont très sévères, cette façon-là. Alors, vous avez déjà entendu ça quelque part, je suis sûr, comme moi, là. Ceux qui pensent comme ça ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ceux qui pensent comme ça seront à peu près toutes des petites filles à maman ou des petits gars à papa qui ont été élevés dans de bons foyers et qui n'ont jamais eu de vraies difficultés dans la vie. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que d'être mis en pièces par des circonstances qu'ils ne pouvaient absolument pas contrôler. Alors les gens de mauvaise vie, pour les appeler comme ça, là, ça empêche souvent de parler honnêtement et ouvertement de leurs péchés à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu méprise leurs excuses et qu'il ne veut rien entendre des circonstances ou des différentes pressions de leur vie qui les ont induits dans une mauvaise vie. Mais Dieu nous invite au contraire à lui confier toutes nos tentations, toutes nos luttes, toutes nos difficultés puis toutes nos craintes de rechuter aussi. Excluant évidemment une justification effrontée, Dieu est absolument pas contre le fait qu'on plaide notre cause justement. Au contraire, il nous invite lui-même à le faire. Dans le prophète Isaïe, chapitre 1, verset 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alors, il faut savoir qu'on sert un Dieu compréhensif, totalement disposé à écouter miséricordieusement, puis à comprendre autant que possible toutes les raisons qui nous ont amenés à sombrer dans une mauvaise vie. Si vous êtes de ceux-là, moi j'étais un de ceux-là, sachez que Dieu ne vous juge pas. Dieu considère et comprend parfaitement les raisons qui vous ont amenés là où vous êtes. Dieu ne vous fera jamais un seul reproche de votre conduite passée si vous la regrettez. Tout ce que Dieu veut, c'est vous tendre la main puis vous aider à sortir de votre mauvais milieu, vous restaurer, puis vous donner une nouvelle vie, puis vous aimer, vous servir de père. Dans l'évangile de Jean, il est dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Méditation numéro 75. Salut par grâce et non par les œuvres. Dieu préfère voir les croyants admettre leurs faiblesses et étendre leurs bras vers lui par la foi que les voir s'enorgueillir de leur effort personnel. Le mérite de la sanctification ne se trouve pas dans nos efforts, mais dans la docilité que nous montrons à nous soumettre à l'influence du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Pour nous, dit Paul, c'est par l'Esprit, par suite de la foi, que nous attendons la justice espérée. Bon, le croyant prouve sa bonne volonté en coopérant avec la grâce de Dieu. L'Esprit Saint, c'est un esprit sanctifiant. Dieu est directement l'auteur de la sainteté. Paul a encore dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement. Bon, Dieu ne nous demande pas de produire le fruit de l'Esprit, mais uniquement de le porter. Il s'agit de laisser simplement Jésus-Christ vivre à travers nous, de le laisser vivre. Dieu connaît les bons désirs de notre cœur et la faiblesse de notre chair. C'est pour ça qu'il veut nous venir en aide, comme un père porte son fils dans tout le chemin, a dit Moïse, en le Deutéronome chapitre 1. Jésus a dit, « Si tu connaissais le don gratuit de Dieu et savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Méditation numéro 76, le bonheur du juste. Laissez-moi vous lire le psaume 1, simplement. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Méditation numéro 77. La mauvaise conscience et le salut. Le péché alourdit la vie. Une mauvaise conscience est un fardeau continuel. Même si nos efforts pour changer ont été inutiles, tout espoir n'est pas perdu. On ne trouvera pas le salut ni la sanctification en essayant de faire sortir le péché de nos vies par la force, mais en nous jetant aux pieds de Jésus, le Sauveur, puis en comptant sur les vertus de son sacrifice et de son œuvre accomplie de rédemption. L'homme qui essaie de devenir chrétien par ses propres forces et de se sanctifier lui-même est comme un chien qui court après sa queue. La vraie victoire vient uniquement de l'acceptation de la grâce qu'on a déjà reçue en Jésus-Christ. Comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, puis que tous ceux qui le regardaient étaient guéris, de même le salut puis la victoire sur le péché est automatiquement donné à quiconque lève la tête et tourne les yeux de la foi sur Jésus-Christ et son œuvre accomplie, c'est-à-dire la rémission et la rédemption. L'apôtre Paul a dit dans son épître aux Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » En d'autres mots, on est déjà libre. Il nous reste juste à avoir la foi de dire « Merci, Seigneur. » L'apôtre Paul a encore écrit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et vous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » C'est en croyant du cœur cette grande vérité qu'elle devient une réalité. C'est de cette façon que des milliers de gens, devenus croyants, ont été libérés du tabac, de la drogue, de l'alcool, de la façon la plus simple au monde. C'est ça le merveilleux salut que Dieu a accompli pour les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde, libérer les captifs. La foi demeure un combat, mais au moins ce n'est plus un combat perdu d'avance. Ce n'est pas un combat où on est seul. C'est Dieu maintenant qui combat avec nous autres, qui combat devant nous et autour de nous. Il n'y a pas une seule mauvaise habitude qui est trop forte pour lui. Alors si vous aimeriez être un bon croyant, mais que vous craignez de ne pas être capable de vous conformer à la volonté de Dieu, ne craignez plus. Les difficultés, là, ça repose même plus sur vos épaules. Quand la tentation va venir, vous allez vous sentir un peu paniqué. Vous allez vous demander très rapidement, « Bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais retomber, je suis sans force, c'est trop dur. » Ne tombez pas dans le piège de vous remettre à lutter contre l'ennemi par la peur, là, par vos propres forces. Prenez simplement le bouclier de la foi et laissez Jésus-Christ repousser l'ennemi. Quand l'ennemi frappe à votre porte, laissez toujours le Seigneur aller répondre à votre place. Quand le diable de l'alcool ou de la colère va voir que c'est le Seigneur qui ouvre la porte, il va dire « Oups, je pense que je me suis trompé d'adresse ». Rappelez-vous le proverbe, dans le livre des proverbes, proverbe 30, verset 26. Les damas, ce sont des petits lézards, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Bon, des damas, c'est une espèce de petite bibitte, là, des petits lézards, comme j'ai dit. Comme les damas, sans force, se réfugient à l'intérieur de la protection des rochers, quand un prédateur leur court après, l'homme sans force, devant ses défauts, devant ses penchants, ses faiblesses, peut se réfugier en Dieu, en Jésus-Christ, son rocher, pour trouver protection et victoire contre les puissances ennemies. Méditation 78. Votre destinée. Personne ne croise l'Évangile sans la volonté de Dieu. Dieu a connu le cœur de chaque personne avant même qu'elle soit née. Dieu a vu dès avant la fondation du monde les cœurs auxquels il allait pouvoir se révéler. Les ténèbres enveloppent ce monde, mais la lumière va poindre pour vous. Vous allez être sensible à l'Évangile plus que les autres. Vous allez réaliser que vous êtes différent peut-être, puis que votre cœur va se remplir de foi en entendant le nom de Jésus seulement. Jésus a dit, Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Maintenant, je crois que si vous avez écouté cette cassette-là, du début jusqu'à la fin, c'est que vous êtes un appelé de Dieu. Vous êtes un élu. Vous êtes une personne, une brebis, que le Seigneur veut prendre et conduire.